Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le message d'aujourd'hui s'intitule « Je suis passionné ». Dites-le à votre voisin, « Je suis passionné ». Si vous l'êtes, j'espère. Alors, on va voir que certaines personnes ne sont pas passionnées du tout. Et je vous dis tout de suite, elles ne sont pas passionnantes non plus. Les gens qui sont passionnés sont des gens qui sont intéressants. Ils peuvent vous parler d'un sujet, même si ça ne vous intéresse pas. Vous voyez qu'ils vivent ce sujet, ils le respirent, ils s'en nourrissent et c'est quelque chose vraiment de très intéressant. Même si c'est un sujet qui ne vous intéresse pas, si quelqu'un est passionné, il arrivera à éveiller votre attention. Et si nous pouvons être des gens passionnés, c'est parce que Dieu lui-même l'est d'abord. On peut être rien que Dieu ne soit pas ou qu'il n'ait pas créé, vous êtes d'accord ? On peut devenir l'inverse de ce que Dieu voudrait, en pervertissant, mais au départ, c'est lui qui a créé ça. Un enthousiasme pour la vie, se passionner pour quelque chose. D'ailleurs, on parle de la passion du Christ. La passion du Christ, telle qu'on l'entend habituellement, c'est cette période qu'il a traversée en se préparant pour la croix et en allant finalement souffrir. Parce que dans le mot « passion », il y a toujours une notion de souffrance. Ça veut dire que c'est une chose qu'on désire tellement que si on en est privé ou qu'on ne l'atteint pas, il y a quelque chose, un manque. C'est presque, ça peut vraiment devenir comme une drogue pratiquement, comme une obsession. Mais il y a des bons aspects dans la passion parce qu'il y a beaucoup aussi de mauvaises passions. Et on va peut-être juste les aborder un petit peu parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient de Dieu. On ne va pas faire un exposé pendant une heure de ce qui se passe dans le monde et ce que le diable fait, et puis de dire en deux minutes que Dieu veut changer tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de fixer nos regards sur Dieu et de ce qu'il va faire en nous. Donc, la première chose, c'est que Jésus est passionné. D'accord ? Oui ? Il est passionné ? Alors, nous avons... Une belle illustration pour ça. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, c'est que nous en sommes capables. Vous le savez ça ? Il ne demande pas quelque chose qui soit impossible. Et il nous demandera toujours quelque chose qu'il a fait avant nous, qui est réalisable. Des fois, ce n'est pas réalisable sans son aide, mais c'est possible. Alors, vous savez qu'il y a une série de messages... Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, en particulier, on va lire encore une fois ces versets. Si je dis encore une fois, ce n'est pas qu'on l'a déjà lu aujourd'hui, mais qu'on l'a très souvent entendu dernièrement. Chapitre 3, verset 15. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Ça, c'est pas forcément des paroles qui nous sont très agréables, mais le plus important vient maintenant. Je reprends, je châtie ceux que j'aime. Il nous aime assez pour vouloir nous sortir de certaines situations. Et il se rend compte que un chrétien qui vit dans la tiédeur est un chrétien malheureux. Il est malheureux. Il ne peut plus profiter du monde comme autrefois. Ne peut même plus jouir du péché, le pauvre, parce qu'il a maintenant quelque chose en lui qui lui gâche toute la joie. Mais en même temps, il n'est pas assez consacré à Dieu pour pouvoir vraiment bénéficier des bonnes choses qui sont dans le royaume de Dieu. Alors il vit entre les deux, assis entre deux chaises, nous appelons ça. C'est très inconfortable et il est malheureux. Alors le Seigneur lui dit, Je te reprends, ça veut dire je te parle dans ta vie. Je te châtie, ça veut dire que j'apporte une forme de punition, dans le sens que pour que tu comprennes la leçon. C'est pas il nous frappe dessus pour nous abattre. Il monte un châtiment, ça peut avoir plusieurs formes. Par exemple, je connaissais une personne, il a dit, moi je n'ai jamais frappé mes enfants pour les corriger. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps donner une fessée aux enfants, mais j'ai dit dans son cas, elle a dit le châtiment qu'elle infligeait à ses enfants, il y avait un silence désapprobateur, et quand la maman ne parlait plus, qu'elle observait un silence, les enfants comprenaient qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans la communication. Et ils étaient suffisamment attristés pour vouloir de nouveau renouer les liens. C'est intéressant comme expérience, hein, mais quelque part ça m'a fait penser à cette expérience du peuple d'Israël. Ils avaient des moyens par lesquels Dieu parlait. Les sacrificateurs qui se présentaient devant Dieu, ils avaient été revêtus des habits sacrés, il y avait l'éphod et tout. Et puis il nous est dit que de temps en temps, dans certaines périodes d'Israël, l'Éternel ne parlait pas. Alors c'était une forme de châtiment, d'être privé de la présence de Dieu. Ça formait un châtiment pour eux et ils se sont dit, quelque chose s'est passé. Il y a eu cet épisode, par exemple, du temps du roi Saül, quand son fils Jonathan avait mangé du miel alors que le roi avait dit, personne ne doit manger jusqu'à la fin du jour. Et un serment royal devait être respecté, même s'il était insensé la façon dont il l'a dit. Mais ça devait être respecté. Jonathan n'en savait rien, il l'a pas su, et donc il a mangé du miel, mais ce n'était pas permis. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails pour expliquer ce qui se passe. Simplement, il y a eu à ce moment-là un interdit, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a fait que lorsqu'ils ont voulu invoquer l'Éternel, Dieu n'a pas répondu. Alors ils se sont posé la question, il doit y avoir un problème. Est-ce que ça ne devrait pas aussi nous interpeller si quelqu'un dit « je n'entends pas la voix de Dieu ». J'arrive pas à entendre sa voix. Il faut peut-être se poser la question en disant « que se passe-t-il avec moi ? Est-ce que j'ai un problème ?» Parce qu'on sait déjà que du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Ça ne peut être que de notre côté. Donc, le châtiment peut prendre plusieurs formes, mais je voulais simplement vous donner une illustration. Ça peut aussi être que le Seigneur, des fois, ne nous fait plus sentir cette communion qu'on avait avec lui avant. Ben oui, si vous êtes tiède, si vous montrez aucun enthousiasme dans sa présence, pas de ferveur ni rien du tout, et puis après vous dites, mais je ne ressens plus la communion comme je l'avais. Alors il dit, puisque je t'aime, je te parle, je te reprends, et je te dis, aie du zèle, sois de nouveau zélé, sois de nouveau plein d'ardeur, comme avant. Et repens-toi, ça veut dire change de mentalité. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et là encore, quand j'ai dit que Jésus est passionné, on pourrait le traduire de cette façon. Ton amoureux, celui qui est passionné, il veut passer du temps avec toi. Il veut partager avec toi ce souper, ce temps d'intimité. Voilà ce qu'il désire, Jésus. À nous de répondre. Dans l'Antiquité, les Grecs, ils avaient une façon de voir certaines choses. La sagesse des Grecs était connue, il y avait une influence un peu dans tout le monde antique. Mais ils avaient en particulier, c'est eux qui ont aussi développé les poèmes qu'on faisait funèbres. Quand quelqu'un était mort, on composait un poème, on chantait toutes les louanges de la personne. Et on se posait surtout des questions sur la façon dont il a vécu. Et la question principale, c'était... est-ce que c'était quelqu'un de passionné? Dans leur culture, c'était ça. Est-ce que c'était quelqu'un de passionné? Est-ce qu'il a vécu sa vie intensément? Est-ce qu'il a aimé avec ardeur? C'est repris dans le film de Troie, pour ceux qui le connaissent, avec l'histoire de la guerre de Troie, Achille, Hector et tous ces héros. Et donc, il se pose ces questions. Comment est-ce qu'on se rappellera de moi après? Quand je serai mort, est-ce qu'on m'oubliera? Alors, à un moment, dans un échange, on dit, bon, ben voilà, si tu vis tranquillement chez toi, tu auras des enfants, qui auront des enfants, on se rappellera de toi, ils t'aimeront, etc. Mais au bout de quelques générations, tu auras disparu. Par contre, si tu fais cette guerre, tu vas rentrer dans la gloire, on se rappellera de ton nom. Et donc, il y avait... C'est une illustration parce que ça arrive pour beaucoup de personnes. Les gens veulent se faire un nom. Ils sont passionnés pour une cause. C'est pour ça que on peut dire aussi que la tour de Babel est une belle illustration. Ils se sont détournés de Dieu, mais en même temps, il a dit, on va construire une tour qui va aller jusqu'au ciel, et on va se faire un nom, et on va devenir des gens importants. Combien, on peut dire, de gens sont passionnés actuellement pour construire des sortes de tours de Babel modernes, pour qu'on se fasse un souvenir de ces gens-là. On parle facilement dans la vie de tous les jours, on parle de gens qui peuvent avoir une vie passionnante, on parle des fois de certains livres, de lire un roman qui est passionnant. Vous avez déjà eu l'occasion de lire un roman qui est passionnant. Il est peut-être passionnant pour vous, mais pas pour votre voisin qui ne s'intéresse pas du tout. Mais si vous avez découvert un livre passionnant, normalement, on dit, vous le dévorez. Vous commencez à le lire, vous n'arrêtez plus, même si c'est le temps d'aller se coucher, parce que vous voulez voir la suite, vous êtes dans l'histoire. C'est passionnant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se produit en nous. J'ai là une définition aussi de la passion. On pourrait en trouver toutes sortes. Bien sûr, il y a cette définition de la souffrance, mais la plupart du temps, on ne pense pas tellement à ça. Actuellement, ça a pris plutôt un sens, dans le sens de ce que je vais dire. Alors, la passion, c'est une sympathie forte pour ou la dévotion pour quelque activité, objet ou concept. Donc, ça peut aller jusqu'à la dévotion. Dévotion, c'est dans un sens d'offrir un culte. Donc on peut littéralement adorer quelque chose, une activité, des loisirs, un sport, ou une personne, et une personne qui ne serait pas Dieu, qui devient alors, et ça c'est difficile pour vous si ça devient votre Dieu. Parce que le jour où vous avez besoin de secours, cette personne ne pourra pas faire le travail de Dieu, parce qu'elle n'est pas Dieu. Et elle ne peut pas répondre à tous vos besoins. Donc, c'est comme ces gens qui sont passionnés pour une idole du sport ou de la chanson ou du cinéma. Bon, ça entretient leur rêve pendant un moment. Ils peuvent tout savoir, si vous voulez, des illustrations. Par exemple, ceux qui suivent les équipes de sport, hein, le football ou autre. Alors, ils savent tout, hein. Ils savent les statistiques, ils se rappellent de tous les scores, des matchs. Ils sont très sérieux. Ils citent mieux les statistiques que vous êtes capable de citer les versets de la Bible. Mais nous, on aimerait des fois avoir toutes ces choses en nous qu'on pourrait citer. Mais ils savent le nom de chaque joueur, son arrière-plan, son numéro, les détails de la famille. Ils ont toujours leur équipe préférée. Quand je pense qu'il y en a, ils suivent leur équipe toutes les semaines, pratiquement, à d'autres coins de la France. Ça, c'est juste pour dire ça, hein, sans parler des championnats internationaux. Et ils ont tout, ils ont le maillot de l'équipe, le drapeau, le foulard, la casquette et tout. Là où vous voyez quelqu'un, il se donne tout entier à quelque chose. Et d'un côté, c'est intéressant de voir quel peut être le moteur qui pousse les gens à agir dans ce sens. Et alors, toujours la même chose qui revient, cette interrogation pour nous. Et nous, est-ce qu'on n'est pas capable de se laisser enflammer davantage et d'avoir cette ardeur pour Dieu? Comment se fait-il? Ça se fait parce que il y a quelqu'un qui essaie de s'opposer à vous. Ça, c'est clair, hein? Sinon, ça serait, entre guillemets, beaucoup plus facile. Alors, hélas, on doit avoir quand même un bilan un peu négatif sur l'Église dans son ensemble et ce qu'on est en train de devenir, qui n'est d'ailleurs que l'accomplissement de la parole de Jésus. Il nous est dit, dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est pas un prophète de malheur. C'est quelqu'un qui avait vu ça à l'avance et que c'est une réalité que nous voyons autour de nous, et en même temps c'est un défi à relever. Ça ne veut pas dire que parce que l'amour du plus grand nombre se refroidit, que c'est normal que vous soyez tiède. Ce n'est pas une excuse, d'accord? Dites à votre voisin, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse pour être tiède. Nous pouvons nous laisser remplir du feu de Dieu, tout à nouveau et toujours. Alors là, j'avais trouvé un petit texte. Il a dit, je ne sais pas à quel pays il écrivait, « Nous devenons une nation de téléspectateurs passifs, contents de soi. Nous avons ce dont nous avons besoin. Nous ne voulons pas être dérangés. » C'est rien d'autre qu'une paraphrase moderne de Apocalypse 3 que nous venons de lire. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, je suis bien, tout va bien. Laissez-nous juste aller dormir dans notre stupeur de suffisance. Alors, il y a beaucoup de mots compliqués. J'ai dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu quelque part, mais je trouvais que ça... Bâiller, c'est écrit en grand, bâiller. Alors, j'espère que personne n'a bâillé pendant ce temps-là. Une des luttes les plus grandes, il parle là de l'enseignement de la jeunesse, c'est obtenir quelque chose qui nous fait aller au-delà de l'apathie. On va expliquer le mot apathie dans un instant. Souvent, on entend, mais pourquoi? Mais quelle différence ça fait? Pourquoi être motivé? Mais ça va bien, il n'y a qu'à se laisser couler. Notre génération, voilà ce que quelqu'un dit, ne mourra pas du péché, mais d'un manque de passion. Là, vous pouvez le noter. Notre génération, moi je ne dis pas pour moi, ce n'est pas ma confession, hein, mais la génération dans laquelle nous sommes, elle est en danger de mourir d'un manque de passion. Et la génération, dans la Bible, c'est souvent une génération, c'est une catégorie de personnes. Jésus disait, je dis à cette génération, etc. Nous sommes maintenant une génération de chrétiens que Dieu a destiné à vivre à ce moment de l'histoire que nous sommes. Pas un autre moment. Vous avez été choisis par Dieu. Il y a des milliers d'années avant la fondation du monde, il a dit, un tel et un tel, je veux qu'il soit à ce moment-là, juste avant mon retour, dans cette génération, faisant partie du corps de Christ, parce que j'ai une mission pour eux. Pour ça, il faudra qu'ils soient remplis de feu, parce que l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Alors je leur donne maintenant des avertissements, et je leur donne aussi des conseils, parce qu'il est dit, je te conseille d'acheter de moi. Vous imaginez? Moi je trouve ça merveilleux de voir que Jésus parle par son esprit à l'Église. Il ne dit pas, moi le Maître, le Seigneur, j'ordonne maintenant que... Non, parce qu'il veut souper avec nous, dîner. Il ne veut pas vous crier dessus à 5 cm, là, tu vas maintenant... Parce qu'on ne fait pas ça quand on a quelqu'un qu'on aime. Je suis des fois étonné, mais je ne veux juger personne, hein. Mais quand on chante des chants d'adoration, il y a des gens qui chantent à tue-tête. Vous savez ce que c'est, tue-tête? On chante aussi fort qu'on peut. Certains chants d'adoration méritent d'être chantés doucement, parce que vous êtes en train de parler à votre bien-aimé. Si vous avez quelqu'un, si vous êtes en couple, j'espère, enfin vous ne faites pas ça, ce serait un drôle de comportement, vous ne mettez pas à 5 cm et vous lui criez dessus. Il dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Ou alors, quelqu'un qui a un problème de surdité. Mais, donc, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ici, Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi. Et acheter. Mais avec quoi on va payer? Avec quoi vous pouvez payer? La Bible dit, certaines choses, ça s'achète au prix de votre foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Et en réalité, ça vous coûtera toute votre vie. Et ça, on le sait, il n'y a pas eu de tromperie dès le début. Il a fait les choses simples. Il a dit, moi, je vous donne tout, et vous me donnez tout. Et on partage le tout ensemble. Mais pas dans le sens qu'on divise, dans le sens que chacun peut prendre part de ce qu'il a. Nous avons reçu la nature divine, il avait pris notre nature de péché. Il est devenu la justice de Dieu pour que nous aussi, on puisse la devenir. Et justement, j'ai trouvé ce texte quand j'avais déjà lu dans Apocalypse, et il dit à nouveau, cette église de Laodicée, Dieu a juste voulu qu'ils aient été passionnés, d'une façon ou d'une autre, mais pas tièdes. L'avertissement personnel de Jésus pour ceux qui sont sans passion. Ils étaient contents d'eux. Ils ne comprenaient pas qu'ils étaient désespérément dans le besoin. Sans Jésus, on n'est rien. Sans l'Esprit de Dieu, on n'a rien. Sans l'onction, on ne peut rien faire dans l'Église. Dans certaines églises, je pense que le Saint-Esprit est présent dans toute église, sinon ce ne serait même pas une église. Mais dans certaines églises, si le Saint-Esprit se retirait totalement, 95% de l'église pourrait continuer à fonctionner comme elle a fonctionné toujours. Parce qu'il n'y a pas réellement l'action de Dieu dans ces choses. Le programme, il est là, il tournera. Le message, certains messages sont préparés 1 ou 2 ans à l'avance. Tout est écrit déjà. Alors, on peut avoir foi en Dieu que ça va être juste bon dans 6 mois. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour la spontanéité et la direction de l'Esprit. Mais nous avons besoin de vivre cette passion avec lui. Et quand on est passionné, on ne sait pas ce qui va arriver. Ce n'est pas la routine, ce n'est pas la morosité. On découvre des choses nouvelles. On vit des choses nouvelles. Mais certains ne comprennent pas qu'ils sont désespérément dans le besoin. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Dans un sens positif, donc le fait de bouillir, ça peut vouloir dire aussi dans un sens négatif. Hein. Quelqu'un peut bouillir de colère, de rage, mais là, c'est dans un sens positif. Ça signifie une poursuite ardente du bien. Ardente, ça fait aussi penser à ces braises ardentes, le feu. Je voulais quand même vous dire 2 mots sur l'apathie. L'esprit tiède est un esprit d'apathie. Alors, apathie, on va faire un petit peu de vocabulaire. Alors, qu'est-ce que vous connaissez? On connaît sympathie, d'accord? Sympathie, c'est quoi? Pardon, plus fort? Gentil avec les autres, oui, parce que, en fait, le mot pathie qui est derrière, ça parle des sentiments et des émotions. Et le préfixe saint, dans ce sens, S-Y-M, ça veut dire avec. On a les mêmes sentiments, on est bien avec quelqu'un. Vivre, par exemple, il y a des composantes de plantes et de parasites qui vivent en symbiose, ils vivent ensemble. Et donc là, la sympathie, c'est qu'on est bien avec quelqu'un, il est sympathique, on aime être avec lui. À l'inverse, antipathie, ça veut dire on ne veut rien avoir à faire avec. Et le préfixe A, ça veut dire c'est quelque chose qu'on enlève, qui n'est pas. L'apathie, c'est quand il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. C'est ça la tiédeur. Il se passe rien. C'est terne, c'est gris, c'est morose. C'est ce que la vie de beaucoup de gens autour de nous. C'est une vie misérable. Parce qu'il n'y a pas la passion, il n'y a pas la présence de Dieu. Il y a des gens qui peuvent finir comme ça en dépression parce qu'ils ne sont pas... Vous pourriez dire, mais ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils ont peut-être une famille, ils ont peut-être un job, ils ont une maison, ils ont plein de choses, mais ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Et Dieu est la source de la vie. Et donc vous pouvez avoir plein de programmes, même des projets pour l'avenir. Si vous n'avez pas cette passion, alors ça ne vaut pas la peine. Je ne dis pas supprimez-vous, je dis au contraire repentez-vous, parce qu'il y a des gens qui en arrivent à là. Ils sont tellement déçus de la vie que finalement ils disent ça sert à quoi. Mais ils sont déçus de la vie, mais ils ne connaissent même pas la vie. Ils n'ont jamais réellement vécu, ils n'ont fait que survivre depuis le jour de leur naissance. Mais la vraie vie, c'est autre chose. Or, Jésus a dit, il vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Une abondance de joie et de paix par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous écrit aussi dans Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. » C'est pas juste moralisateur, vous comprenez ça? C'est pas juste dire, il faut que vous travaillez comme ça avec un doigt qui nous dit quoi faire. Non, ayez du zèle et non de la paresse, ça veut dire vous avez votre destinée en main. Choisissez, mettez quelque chose en action. Ne soyez pas à vous laisser vivre simplement. La ferveur, c'est aussi en rapport avec ce que nous avons dit de bouillir. Bouillir, Vous comprenez que pour faire quelque chose de bouillant, il faut qu'il y ait du feu sous la marmite. Hein? Il faut qu'il y ait tout le temps le feu. On ne peut pas être bouillant sans qu'il y ait le feu. Quand nous voyons des gens qui sont passionnés, nous voyons quelqu'un qui a trouvé une raison de vivre. Des fois, c'est une mauvaise raison. D'accord ? Mais en attendant, c'est des gens qui accomplissent quelque chose. Prenons quelqu'un qui est passionné pour un job. Peut-être petit, il avait un rêve. Je ne sais pas ce que Bill Gates rêvait de faire quand il était petit. Mais donc, le patron de Microsoft, etc. Peut-être c'était quelqu'un qui poursuivait un objectif. Il a dit, un jour, je serai un businessman, je vais envahir la planète entière de mes systèmes d'ordinateurs, etc. Mais il a dû certainement consacrer plus que juste quelques heures par semaine pour poursuivre ses objectifs. Peut-être maintenant il peut ralentir un peu ses activités, mais à un moment donné, il a dû poursuivre, tous ceux qui ont réalisé de grandes choses ont dû poursuivre cet objectif et être assez passionnés. Les sportifs, vous ne pouvez pas, même si vous êtes doué, si vous entraînez jamais, il y a peu de chances que vous soyez réellement des champions haut niveau. Alors, ils ont trouvé une raison de vivre et quelque chose qui les incite à combattre pour. C'est aussi ça, la passion, ça veut dire que même s'il y a un obstacle, je vais le franchir. Je ne vais pas m'arrêter tout de suite. Des fois aussi, quand on pense à relation garçon-fille ou jeunes gens, vous savez que des fois, ça existe. Il y a des jeunes gens qui sont intéressés par une jeune fille, ils lui font une proposition, si elle dit non, bah, ils disent pas, oh, bah, tant pis. Ils continuent, d'accord ? Vous voyez ça des fois. Il y a des gens, ils ne comprennent pas tout de suite. Non, elle n'est pas intéressée. Lui, il est passionné, il croit que c'est cette jeune fille qui lui faut, alors il va continuer de la harceler, de vouloir l'inviter ou de je ne sais quoi, mais on peut voir aussi cet aspect de la passion, c'est que, bah, quelqu'un qui lâche tout de suite, qui dit bon, bah, tant pis, hein, ça n'a pas marché. Non, quelqu'un qui est prêt à poursuivre un but, qui ne se laisse pas décourager par le premier obstacle. Jésus ne nous a pas dit que tout serait toujours facile dans la vie chrétienne. Pour lui non plus, ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, il n'a pas dit « Oui, je me réjouis à l'avance d'aller à la croix. » Au contraire, il a lutté ardemment, avec instance, il a prié. Il a dit « Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. » La passion fait qu'on se détache un peu du lot. On finit par être remarqué. On remarque les gens qui sont passionnés. Ils sont différents de la masse. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement. Beaucoup sont dans la moyenne. La tiédeur, c'est un peu la moyenne. Et puis, il y en a quelques-uns qui se détachent. Et la passion, elle défie la personne qui est tiède. Ça la dérange. Si vous avez une église morte, excusez-moi, mais ça existe, des gens, des églises qui sont quasi mortes ou alors très tièdes. Alors, si quelqu'un est bouillonnant pour le Seigneur, est passionné, s'il vient de découvrir des choses, il veut les partager autour de lui, ben, tout le monde dit pas « Ah, bravo, c'est formidable ce que tu nous partages là ». Non, ça dérange. Vous nous dérangez là dans vos choses, dans vos défis. Mais la passion défie les personnes tièdes avec lesquelles ils entrent en contact. Et comme dans le monde de Jésus, c'est la même chose. Soit ils vous aimeront ou ils vous détesteront pour ça. Vous devez être prévenu. La vie de passion sera une vie passionnante, ça sera formidable. Il y a des gens qui vont dire « on veut ce que tu as », mais d'autres aussi diront « ah non, celui-là, il est un peu trop… c'est trop pour moi ». On voit que les disciples de Jésus étaient passionnés. Nous, on a des fois une image un peu négative des disciples, mais quand même, Jacques et Jean, pourquoi on les a appelés fils du tonnerre? Ils voulaient tout renverser, ils voulaient bouleverser le monde. Quelque chose voulait s'opposer à Jésus, ils voulaient commander que le feu du ciel descende. Ils voulaient dire, non, nous n'acceptons pas cet obstacle, ces gens doivent dégager. Et Pierre, il était prêt à sortir l'épée et couper tout ce qui tombait sous son épée. Bon, il avait juste une oreille, mais il était passionné aussi, malgré qu'il y a des erreurs qui ont été faites. André est celui qui a fait le recrutement des disciples. Il a dit, venez, venez, nous avons trouvé celui qui est le Messie. C'était des gens qui ils y allaient. Jésus a prié avant de les choisir. Il n'a pas dit, excusez-moi de l'expression, avoir une équipe de bras cassés, je pourrais compter sur aucun d'eux. Non, il les a observés, il les a vus quand même. Il les a vus avec leurs faiblesses et leurs défauts. Mais il a vu aussi des choses qu'il pouvait utiliser. Judas a été choisi non pas pour parce qu'il était destiné à aller à la perdition, mais c'était quelqu'un qui faisait partie de un peu des révolutionnaires. Il voulait changer le monde. Bon, à sa façon, il y a des choses qu'il n'a pas comprises, et puis il a mal tourné. Mais au départ, c'était aussi quelqu'un, il en voulait pour une cause qu'il croyait juste. Tous ces gens étaient passionnés. Et on voit que quand le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux à la Pentecôte, à un moment, ils avaient un moment de timidité et de peur, ils étaient réfugiés, ils ne savaient pas ce qui allait leur passer, se passer. Mais quand le feu de Dieu est descendu sur eux, ils sont de nouveau sortis dans les rues et ils étaient passionnés pour partager ce qu'ils avaient reçu. Donc il y a des raisons pour lesquelles certains manquent de passion. Des fois, on peut être un peu morne par rapport à ce que Dieu fait pour nous. On ne sait plus s'étonner, on ne sait plus s'émerveiller. On trouve que tout est normal. Vous savez que dans un monde où maintenant il y a tant de centaines de millions de gens qui n'ont même pas d'eau potable tous les jours, même si vous êtes à table et que vous avez un verre d'eau que vous pouvez consommer, vous pouvez encore être reconnaissant à Dieu. Moi je crois que c'est une clé, toujours garder un cœur reconnaissant et voir Dieu dans les choses qu'il fait. Mais pas permettre à nos cœurs de devenir endurcis par rapport à toute cette exposition d'amour et toute cette bienveillance de Dieu quotidienne. Ne vous laissez pas ni endurcir, ni engourdir. Des fois aussi, il y a tellement d'occupations dans notre esprit, on a notre cœur qui est comme engourdi. Notre raison du manque de passion, c'est aussi des fois on ne voit pas le but de Dieu pour notre vie. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on ne voit pas le chemin jusqu'au bout qu'il n'y a pas de but. Vous pouvez déjà avoir une direction. Le psaume 119 dit « La parole de Dieu, c'est comme une lampe à mes pieds qui éclaire le sentier. » Mais il n'est pas dit que cette lampe, elle brille comme le soleil en plein jour. Des fois, c'est un peu, on marche comme dans l'obscurité, mais qu'est-ce que vous avez besoin? Juste que vos pas soient éclairés. Vous prenez cette direction que Dieu montre. Et une fois que vous serez arrivé jusqu'à l'endroit où c'était éclairé, vous vous rendrez compte que la lumière va maintenant un peu plus loin. Il y a des gens qui disent, moi je bouge pas, tant que j'ai pas vu le plan de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin, et que j'ai déjà... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, il y a une chose qui arrive fréquemment, c'est que si Dieu vous montrait tout le plan, vous pourriez peut-être même pas le supporter. L'apôtre Paul, il a dit, je lui ai montré les choses qu'il doit souffrir, mais il ne lui a pas montré tout son plan. Le premier soir, tout de suite, il a dit, voilà ce qui va t'arriver, et comment tu seras livré à Jérusalem, et tu seras lapidé, et tu vas mourir, et puis ici et là, tu seras jeté en prison. Et... Non, mais qui pourrait supporter ça? L'apôtre Paul a dit, il a reçu cette parole de Dieu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ne t'occupe pas de tes faiblesses, marche pas à pas et compte sur la puissance de Dieu pour te renouveler. Nous n'avons pas un tout petit but minuscule. Dieu a un but grand. C'est pas pour maintenant que vous soyez enflé d'orgueil, dis-moi je suis comme quelqu'un d'important. Vous êtes important, c'est vrai, aux yeux de Dieu. Vous êtes unique, exactement comme tous les autres. Si on a tout juste un petit but tout minuscule, ce n'est pas passionnant. Il faut que l'objectif qu'on a soit un peu au-delà de ce qu'on peut concevoir. Il faut toujours augmenter. Si quelqu'un veut devenir champion du monde en saut en hauteur, il ne peut pas sauter 50 cm et se dire, oh, je suis quand même fort. Tôt ou tard, il faut qu'il élève la barre un tout petit peu. Hein. Et il faudra qu'il essaye de sauter un petit peu plus haut que ce qu'il est capable. Sinon, il ne fera jamais de progrès. Donc, il ne faut pas simplement se contenter. Mais quelle différence quand on rejette les tendances naturelles de l'homme et qu'on commence à marcher dans l'esprit. Il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Vous pouvez trouver avec moi dans Galates, au chapitre 5, cette parole. Et là, il y a quelque chose d'intéressant pour nous, parce qu'on nous parle de la marche de l'esprit au verset 16, mais au verset 24, il nous est dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc moi je dis la chose suivante, quand on est vraiment à Jésus-Christ, c'est une chose de dire j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, d'avoir compris qu'on a besoin de lui, qu'il a porté nos péchés, mais être à lui, ça demande qu'à un moment donné, les passions et les désirs que nous avions, ils ont tous été passés au crible. On peut dire qu'on a fait le tri, on a regardé qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Il y a des passions, des désirs qu'on dit, ça c'est des mauvais passions et désirs, il faut les dégager, il faut s'en repentir, ne plus jamais s'en occuper. Et il y en a d'autres que nous pouvons conserver et entretenir, mais seulement dans la mesure où ils sont maintenant soumis à notre objectif principal. Mais moi, je ne crois pas qu'il faut qu'on ait plus aucun, comme si on avait subi un lavage de cerveau, notre personnalité est détruite, on n'est plus rien du tout maintenant. On a même plus de cerveau maintenant. On a besoin de penser. On demande quelle est la pensée unique là qui vient de Dieu. Dieu nous donne des conseils et des pensées qui viennent de lui, mais on est appelé à travailler avec lui. Et vous serez toujours vous-même. Et il y a des choses que vous aimez, peut-être que moi je n'aime pas. Et nous pouvons être chrétiens tous les deux. Vous vous rendez compte? Mais c'est la réalité. Et ça ne veut pas dire que cette chose est mauvaise. Elle est mauvaise pour tout le monde. Non, il y a des choses simplement parce que c'est des goûts. Hein? Il y a les goûts et les couleurs, on parle de ça aussi. Sinon, on devrait avoir tous les chrétiens les mêmes maisons, avec la même peinture, avec les mêmes meubles, avec les mêmes voitures, avec les mêmes habits tous. Non, il faut un peu réfléchir et dire non, il y a des choses qui nous sont personnelles et qui n'ont absolument aucune influence sur notre marche avec Dieu, sur notre passion pour Jésus. C'est simplement des choses que moi j'aime. Mais si cette chose que j'aime prend le dessus, si je pense que ça, jour et nuit, et que c'est ça mon objectif, alors là, je deviendrai tiède spirituellement. Ça, c'est clair. D'abord, je viendrai tiède, et au bout d'un moment, je peux se demander, mais ça sert à quoi tout ça, finalement? Et alors, on est tombé dans le panneau du diable, parce que cette passion qu'on aura poursuivie, quelle qu'elle soit, passion, désir, rêve, un jour ou l'autre, il y aura la déception. Il y aura la déception parce que si ce n'est pas conduit en Dieu, ça ne peut pas bien finir. Alors si votre empressement et désir du feu, la passion de Dieu, ils vont être proportionnés avec la façon dont Dieu vous emploie. Comprenez aussi qu'il y a des choses qu'on confie à des grands enfants, qu'on ne confie pas à des petits enfants. L'apôtre Jean écrivait, il disait « Petits enfants, je vous ai écrit parce que vos péchés sont pardonnés. » C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir, les petits enfants. Et ils sont heureux. Les péchés sont pardonnés. Ils appartiennent à Dieu. Mais ils font rien d'autre. S'ils restent comme ça, vous allez dans ces églises, s'il n'y a que des petits enfants, vous allez entendre les seules prières que vous allez entendre, c'est celles-là. « Merci Seigneur, on fait partie de la famille de Dieu, nos péchés sont pardonnés. » Et ils sont contents comme ça. Mais les jeunes gens, ils nous ont dit « Je vous écris parce que la parole de Dieu demeure en vous, vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. » Et là, ça prend déjà une autre dimension. Il y a une croissance là-dedans. Et ensuite, il est dit, « Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le début. » Vous êtes appelés à devenir des pères et des mères dans la famille de Dieu. Des personnes qui comprennent maintenant ce que c'est, qui arrivent à une maturité aussi dans l'amour. Vous savez que l'amour n'est pas parfait chez les enfants. C'est mélangé, c'est plein de bonnes intentions, de sentiments, mais c'est mélangé au niveau de leurs émotions. Ils ont besoin qu'on les éduque, qu'on leur apprenne aussi à trier, qu'on leur apprenne qu'on ne peut pas toujours faire toutes tes volontés, on ne peut pas suivre tous tes caprices, Vous avez besoin d'apprendre. L'amour, peu à peu, doit devenir mûr, parfait. La personne qui a une petite passion, elle a peu de vision, elle a peu d'espoir que Dieu accomplisse de grandes choses. Il faut continuer d'attendre de grandes choses de Dieu. Continuez de rêver. Ayez des rêves grands pour votre vie, votre avenir, ce que Dieu va faire avec vous. Selon votre foi, il vous sera fait. La passion, c'est un ingrédient pour une vie qui fait une différence. Vous croyez ça? La passion augmentera votre puissance dans la volonté, votre autodiscipline. Elle élèvera le niveau de vos buts. Et elle vous donnera une vision différente qu'un homme ordinaire. Je me rappelle toujours, c'était une histoire qui m'était arrivée. Ça m'a souvent encouragé par la suite. J'étais arrivé à Nice, à l'aéroport, et quelqu'un devait nous chercher avec leur voiture. Et puis, donc, elle voulait m'asseoir derrière. Et puis, elle dit, je vais avancer le siège pour que vous ayez plus de place pour vos jambes. J'ai dit, j'ai pas besoin de tellement de place. Je suis un Français moyen. C'était à l'époque, le Français moyen, c'était 1m75. Maintenant, la génération a un peu grandi. Et donc, j'ai dit, je suis un Français moyen. Cette personne se tourne à moi et dit, vous n'êtes pas un Français moyen. Vous êtes un Français extraordinaire. Et ça, j'aimerais le dire pour chacun d'entre nous. On a des fois une vision qui est erronée de nous-mêmes. On pense juste à le naturel. Je suis moyen, je ne suis pas plus. Avec Dieu, vous pouvez être quelqu'un d'extraordinaire. Vous pouvez permettre à cette passion qu'elle vous donne une vision que vous soyez plus qu'un homme ordinaire. Les hommes ordinaires, ce sont des gens qui accomplissent certaines choses, mais ce ne sont pas vraiment, ce ne sont pas les gagneurs d'âme. Ce ne sont pas les gens qui bouleversent le monde. Et moi, c'est ceux-là qui m'intéressent. C'est ça qui m'intéresse. De voir que même un petit nombre, même une personne qui apparemment ne paye pas de mine, on jugerait sur l'apparence, on dirait, bon, celui-là, bon, je ne sais pas ce qui... Mais à l'intérieur, nous savons qu'il y a un potentiel, qu'il y a des choses que Dieu a placées. Et ces personnes peuvent expérimenter cette parole qui dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cette personne est plus grande que beaucoup de gens qu'on veut nous présenter à la télévision, de toutes ces stars qui finalement sont souvent des personnes misérables, que je n'envie pas du tout. Alléluia. Les gens apathiques mettent peu sur leur programme. Ils mettent peu sur leur programme, ils ne veulent pas accomplir grand-chose, et finalement, vous savez, c'est ce qu'ils font. Ils ont peu d'ambition, mais ils réalisent peu aussi. En fait, ça les entretient toujours dans un cycle un peu de morosité, médiocrité, peu d'objectifs, et on continue comme ça. Et il n'y a jamais rien qui se passe, il n'y a pas d'enthousiasme. Je veux terminer, mais je ne peux pas vous donner la passion. Personne ne le peut. Jésus ne va pas vous la mettre sur un plateau. Dire voilà la passion, parce qu'il l'a déjà mis sur la croix. Vous devez la prendre. Saisissez-vous de cette passion. Dites, moi je veux être quelqu'un de passionné. Dites-le, je veux être quelqu'un de passionné. Je veux être de plus en plus passionné. Dites-le à votre voisin, tu as besoin d'être passionné. Tu as besoin d'être passionné pour Dieu. Et laissez-le chauffer jusqu'à ébullition. Pas juste le dire un petit peu et vous sentez un petit frémissement. Non, si vous voulez faire une bonne tisane, infusion ou un thé, vous ne pouvez pas le faire avec de l'eau tiède. Vous avez déjà remarqué ? C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que ça arrive à ébullition. Et donc, des fois, on touche un tout petit peu et on croit que c'est tout. Non, ce n'est pas tout tant que vous n'avez pas été jusqu'au bout. Il faut que vous alliez jusqu'au bout, que vous expérimentiez ce feu de Dieu. Ne vous arrêtez pas avant. Dites pas, oh, je me suis un petit peu réchauffé. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Sinon, vous avez encore raté le but. Vous allez très vite de nouveau tiédir. Vous dire, oh, mais j'avais essayé ce truc. Vous n'avez même pas essayé, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous l'avez juste un peu touché du bois. Mais du doigt. Ce qui brûle à l'intérieur, si vous le laissez arriver à ébullition, ça se manifestera dans l'extérieur de votre quotidien. Ça va se voir. Les gens diront, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il faut qu'on entende cette phrase plus souvent, cette question. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comme tu as changé ? Ce n'est pas un compliment pour les chrétiens qui vont dire, oh, tu es toujours le même, tu ne changes pas. Ce n'est pas un compliment. Il y a des personnes qui attendent ça, ils disent, ah, ben, j'ai toujours l'air jeune et tout. Mais ce n'est pas ça qui est important. Les gens doivent dire, mais qu'est-ce qui se passe avec toi ? Tu es transformé, tu es changé, on ne te reconnaît plus. C'est ça qu'on veut. Cette chose va se manifester dans un amour intense pour Dieu et même ça va vous empêcher de pécher. Vous ne serez pas en train de tout le temps vous demander, il ne faut pas que je regarde ci, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je pense ceci, il ne faut pas que je dise cela. Vous serez tellement rempli de Dieu, vous direz, ah mais, j'ai même plus de problème avec tout ça. Moi je dis, c'est ça la vraie solution à beaucoup de tourments intérieurs que auront certains. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais faire d'erreur, mais la question, elle est claire. Votre passion fera la décision. C'est déjà un pas vers des bons choix, être passionné pour Dieu. La passion, elle aboutit à une obligation radicale. C'est quelque chose de radical. Les gens qui sont passionnés, ils vivent des choses radicales. C'est ça qui choque un peu des fois, mais c'est beaucoup mieux. La passion, elle est, je disais, je ne peux pas vous la donner, mais elle est quand même contagieuse un petit peu, hein, quand même. Quand vous voyez des gens passionnés, vous avez peut-être envie de les suivre. 2 Corinthiens 9, 2, il dit, « Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Vous entendez ? Le zèle de ces gens a stimulé le plus grand nombre. Voulons-nous avoir des gens stimulés ici ? On veut stimuler le plus grand nombre pour la passion pour Jésus. Comment trouvons-nous la passion ? Comment pouvons-nous laisser notre ébullition de cœur ? Où attrapons-nous le feu de Dieu ? C'est intéressant ça. Où est-ce qu'il est ? Pardon ? Tu as une réponse ? Oui ? Non, mais on est prêt, hein, on accepte toutes les idées. Devons-nous attendre jusqu'à la semaine prochaine ? Non, c'est pas comme un épisode, là. Je vous laisse sur le suspense de la fin et dire, bon, la semaine prochaine, on le saura, maintenant on a compris qu'il faut être passionné. Non, ou la prochaine réunion, il n'a pas besoin d'attendre pour commencer passionnément à répondre à son amour pour vous. Priez pour un empressement de devenir une personne plus ardente à cause de sa passion pour vous. Priez maintenant même, c'est tout de suite. Et c'est chaque fois que vous y pensez, en fait, c'est ça que vous devriez faire. Chaque fois que vous y pensez. Je pensais toujours à une illustration que notre sœur Monique avait donnée une fois. Chez le dentiste, c'était écrit « Mes dents sont vivantes, je pense à les brosser ». Et donc, on avait transformé ça en disant « Mon Dieu est vivant, je pense à le louer ». Et ça doit être d'une manière permanente comme ça. Et notre Dieu est vivant. Nous voulons être passionnés pour lui. Alors, quelqu'un qui est passionné, vous n'aurez pas besoin de lui dire « Tu penses des fois à ta fiancée ou à ton épouse ?» Et puis il se dit « Ah ben oui, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à elle ou à il. » Non, vous n'avez pas besoin. Vous avez plutôt besoin de vous concentrer sur votre travail parce que vous êtes ailleurs en pensée. Et donc, ça doit être la même chose. Demandez ce feu de Dieu en vous. C'est possible. Jésus nous a dit comment ça se passe. Il faut aller auprès de lui et acheter. Le prix, c'est la foi. Ayez cette confiance en Dieu. Si vous le demandez maintenant, il va vous le donner. Et nous, on va stimuler notre zèle mutuel. Et on va se dire, plus rien ne sera accepté ici que des gens passionnés. Donc, ça sera, on va faire des contrôles à l'entrée et seulement des gens passionnés pourront rentrer en disant, d'abord, tu te laisses me remplir de Dieu et puis tu rentres quand tu seras passionné. Mais pour que nous puissions entretenir aussi cette flamme de Dieu ensemble. Amen. Alors, levons-nous et prions pour ce feu de Dieu. Vous rappelez, lorsqu'ils ont prié à la Pentecôte, ils nous ont dit, le Saint-Esprit est descendu, il y avait comme un feu sur chaque tête, et puis ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.